Chapitre 24. Dans un lieu isolé. Et Gentry, face à Slick, la forme brillant derrière les yeux, le filet de Trod à la main sous la lueur des ampoules nues, lui détaillant pourquoi il fallait faire comme ça, pourquoi Slick devait mettre les Trod et se brancher sur ce que la tablette grise envoyait à la silhouette immobile sur le lit. Il secoua la tête en repensant à son arrivée à Dock Solitude. Et Gentry commença à parler plus vite en prenant son geste pour un refus. Gentry expliquait à Slick qu'il devait plonger, ne serait-ce que quelques secondes, le temps qu'il termine la position des données et qu'il puisse en tirer une macroforme. Slick ne savait pas comment faire ça, disait Gentry, sinon il y serait allé lui-même. Ce n'était pas les données qui l'intéressaient, mais la forme globale. Parce qu'il croyait que cela le conduirait à la forme, la grande, celle qu'il cherchait depuis tout ce temps. Slick se rappelait sa traversée de solitude à pied. Il craignait alors un retour de Korsakov, d'oublier où il se trouvait, et de boire de l'eau contaminée dans les mares rouges et boueuses de la plaine rousse. De la mousse violette et des oiseaux morts qui flottaient, les ailes déployées. Le chauffeur de camion du Tennessee lui avait dit de marcher vers l'ouest depuis l'autoroute, qu'il tomberait sur une route à deux voies au bout d'une heure et qu'il pourrait trouver quelqu'un pour l'emmener à Cleveland. Mais il lui semblait que cela faisait plus d'une heure et il ne savait pas trop où se situait l'ouest. Et cet endroit, cette décharge comme aplatie par les pas d'un géant lui foutait les jetons. À un moment, il avait vu quelqu'un au loin, au sommet d'une petite élévation et lui avait fait signe. La silhouette avait disparu, mais il était parti dans cette direction, sans plus se soucier d'éviter les flaques, pataugeant dedans, jusqu'à ce qu'il atteigne la colline et s'aperçoive qu'il s'agissait de la carcasse dépourvue d'aile d'un avion de ligne à demi enterré sous des conserves rouillées. Il avait monté la pente sur un sentier où des marcheurs avaient concassé les boîtes jusqu'à une ouverture carrée qui servait autrefois de sortie de secours. Il avait passé la tête à l'intérieur et découvert des centaines de minuscules visages suspendus au toit concave. Il était resté figé là, les yeux plissés dans la soudaine obscurité, jusqu'à comprendre ce qu'il voyait. Des têtes de poupées en plastique rose, leurs cheveux en nylon coiffés en houppe, et pris dans une épaisse couche de goudron, pendaient comme des fruits. Rien d'autre, à part quelques plages de mousse verte et sale. Et il avait alors compris qu'il ne valait mieux pas rester là pour voir à qui appartenait cet endroit. Il était parti vers le sud, sans le savoir, et avait trouvé la factory. « Je n'aurai pas d'autre occasion, » dit Gentry. Slick considéra le visage aux traits tirés, les yeux écarquillés par le désespoir.
« Je ne la verrai jamais !»
Et Slick se rappela que la fois où Gentry l'avait frappé, il avait baissé le regard sur la clé à molette et senti « Bon, chéri se trompait à leur propos, mais il y avait autre chose entre eux, quelque chose qu'il ne savait comment qualifier. » Il s'empara des Trod de la main gauche et poussa le torse de Gentry sans ménagement.
« Ferme ta gueule, ferme-la, putain !»
Gentry alla cogner le rebord de la table en acier. Slick l'insulta à voix basse en démêlant le fragile filet de dermatrode de contact pour le mettre sur son front et ses tempes. Il se connecta. Le bruit de ses bottes sur du gravier. Il ouvrit les yeux et regarda par terre. Un sentier de cailloux qui partait dans l'aube, plus propre que quoi que ce soit à Dock Solitude. Il releva la tête et le vit s'incurver, puis, par-delà de grands arbres verts, il discerna le toit d'ardoise en pente d'une maison deux fois plus petite que la factory. Des statues se dressaient près de lui sur l'herbe humide et longue, un chevreuil de fer et la sculpture brisée d'un corps d'homme taillé dans de la pierre blanche, sans tête, bras ni jambes. On n'entendait que le chant des oiseaux. Il s'engagea sur le chemin vers la demeure grise, parce qu'il n'y avait apparemment rien d'autre à faire. Lorsqu'il arriva au bout du sentier, il vit, derrière l'habitation, des bâtiments plus petits et un grand champ d'herbe plat avec des planeurs accrochés à des pieux pour éviter qu'ils s'envolent. « Un conte de fées ? » songea-t-il en regardant le large sommet en pierre de la demeure et les fenêtres aux petits carreaux en forme de diamant, comme dans une vitre qu'il avait vue gamin. Des gens vivaient-ils vraiment dans de tels endroits ?
Mais ce lieu n'existe pas, se rappela-t-il. Ce n'est qu'une illusion. Gentry, dit-il, fais-moi sortir de là, d'accord ?
Il regarda le revers de ses mains. Des cicatrices, de la crasse incrustée, des demi-lunes noires de graisse sous ses ongles cassés. À force de les ramollir, la substance finissait par les briser. Il commença à se sentir bête à rester planté là. Peut-être qu'on l'observait depuis la maison.
Ah, oh, merde !
Dit-il en s'engageant sur le chemin aux grosses dalles, reprenant inconsciemment la démarche assurée apprise avec les Deacon Blues. Accrochée au panneau central de la porte, une jolie petite main en métal tenait une sphère de la taille d'une boule de billard. Une charnière au niveau du poignet permettait de la soulever et de frapper avec. Ce qu'il fit, fort, deux fois, puis encore deux autres. Sans résultat. Des motifs floraux, presque effacés par l'usure, ornaient le bouton de la porte en cuivre, qui tourna sans problème. Slick ouvrit. La richesse des textures et des couleurs le surprit. Surface en bois sombre et ciré, marbre blanc et noir, tapis d'un millier de teintes claires qui étincelaient comme les fenêtres d'une église, argent lustré, miroir. Le léger choc qu'il ressentit le fit sourire. Ses yeux passant d'une merveille à l'autre, tellement de choses, d'objets dont il ignorait le nom.
« Tu cherches quelqu'un de précis, Jack ?»
L'homme se tenait devant une grande cheminée et portait un jean noir moulant et un t-shirt blanc. Il était pieds nus avec un gros verre bulbeux d'alcool dans la main droite. Slick plissa les yeux en le voyant.
« Merde !» dit Slick. « C'est toi !»
L'homme agita le liquide marron en faisant tourner le récipient et en but une gorgée. « Je m'attendais à ce qu'Africa tente un truc dans ce genre, » dit-il.
« Mais tu ne ressembles pas du tout à un de ses potes.
»« Tu es le comte ?»«
Ouais, je suis le comte. »«
Et toi, t'es qui, bordel ?»«
Slick. Slick Henry. » L'autre éclata de rire.
« Tu veux du cognac, Slick Henry ?»
Il montra avec le verre un meuble en bois lustré accueillant une rangée de jolies bouteilles d'où pendaient, au bout d'une chaîne, des étiquettes argentées. Slick secoua la tête. L'homme haussa les épaules.
« On ne peut pas se bourrer la gueule avec, de toute façon. Désolé de te dire ça, Slick, mais tu as une mine de déterré. Tu n'es pas avec Kid Africa, pas vrai ? Et du coup, qu'est-ce que tu fous là ?
C'est Gentry qui m'a envoyé.
Gentry qui ?
Tu es le type sur le brancard, pas vrai ?
Je suis bien le type sur le brancard. Et où est Sly à présent, Slick ?
Chez Gentry. Et c'est où ?
Dans la factory.
Qui se trouve où ?
Sur Dock Solitude. Et comment je me suis retrouvé là ?
C'est Kid Africa qui t'a emmené, avec une nana du nom de Sherry. Comme je lui devais un service et qui voulait te mettre à l'abri avec Sherry, celle qui s'occupe de toi.
Tu m'as appelé comte, Slick.
D'après Sherry, c'est comme ça que Kid t'appelait.
Dis-moi, Slick, le Kid avait l'air inquiet quand il m'a emmené.
Sherry croit qu'il a eu peur à Cleveland,
j'imagine. C'est qui ce Gentry, un pote à toi ?
La factory, c'est chez lui. J'y habite aussi.
Ce Gentry,
c'est un cow-boy, Slick ?
Un cœur ? Enfin, si t'es là, c'est qu'il doit s'y connaître un peu, pas vrai ? Ce fut au tour de Slick de hausser les épaules.
Gentry est un genre d'artiste. Il a des théories, c'est difficile à expliquer. Il a relié des splitters sur le truc accroché au lit, l'appareil auquel t'es branché. Il a d'abord tenté d'obtenir une image sur un affichage au lot, mais il n'a récolté que cette espèce de singe, une sorte d'ombre. Alors, il m'a convaincu de... Bordel.
Bon, tant pis. Cette factory dont tu parles, elle est dans la pampa, non ?
Assez isolée.
Slick hocha la tête. Et cette chérie, c'est un genre d'infirmière ?
Ouais. Elle a un diplôme de medtech, apparemment.
Et personne n'est encore venu à ma recherche.
Non ?
C'est bien, Slick. Parce que si quelqu'un se pointe en dehors de cet enfoiré de menteur de Kid Africa, vous risquez de tous vous retrouver dans la merde jusqu'au cou.
Ah bon ?
Ouais. Écoute-moi, d'accord ? Il faut que tu te souviennes de ça. Si quelqu'un débarque dans cette factory, votre seul espoir, c'est de me brancher dans la matrice. T'as pigé ?
C'est quoi cette histoire de conte? Enfin, ça veut dire quoi?
Bobby. Je m'appelle Bobby. Conte, c'était mon surnom autrefois, c'est tout.
Tu crois que tu te souviendras de ce que je t'ai dit?
Slick hocha de nouveau la tête.
Bien.
Il reposa son verre sur le meuble avec toutes les belles bouteilles.
Écoute. À travers la porte ouverte, leur parvinrent des bruits de pneus sur du gravier.
Tu sais qui c'est, Slick?
C'est Angela Mitchell.
Slick se tourna.
Bobby, le comte, regarda vers l'allée.
Angie Mitchell, la star de la Steam? Elle est aussi dans ce truc?
En quelque sorte, Slick, en quelque sorte.
Slick vit la longue voiture noire approcher.
Hé! Hey, dit-il. Comte, enfin, Bobby! Qu'est-ce que...
Doucement, disait Gentry. Reste assis.
Doucement, ça va.